RDS et Balcon présente le petit paquet. Bienvenue au petit paquet, François Côté, comme d'habitude, en compagnie de Mathieu Poulin, Stéphane Morneau. Allô, les garçons. Ah oui, on est rendu là.
Ça, vous ne saviez pas, mais moi, je suis vraiment un gangster dans ma vie quotidienne. Fait que il est temps que je change ma gimmick un petit peu, le petit paquet, puis j'assume qui je suis. T'sais, on dit que des bonnes gimmicks de lutte, c'est assumer qui on est, mais monter le volume à 11, donc voilà, brop.
Ah, c'est parce que tu côtoies des jeunes, toi, t'es dans le vent.
Ah, c'est ça, exact.
Fait que t'es comme Sammy avec ses danses, toi, t'as ton street cred qui te suit. Là.
Ouais, t'as tout compris.
Enfin, il était temps que les gens rencontrent le vrai Mathieu. Il est pas si fin que ça. Il est pas si parfait que ça.
Ah non, je me trempe les orteils dans le crime.
Je sais pas.
Le gangstérisme.
Hey, mesdames et messieurs, on va commencer cette semaine en parlant de Kenny Omega, évidemment, devenu triple champion avec sa victoire à Impact contre Rich Swann. Ça lui donne 4 belts techniquement parce que les deux ceintures, il y avait comme deux ceintures. Et il y avait le TNA Championship puis le World Championship. Quand tu crées des ceintures qui veulent dire la même affaire puis que c'est la même personne que les deux, peu importe. Mm-hmm. Donc, avec All Elite et Triple A, ça fait de lui un triple champion. On ne va pas dire quadruple. C'est la gimmick un peu qu'on nous avait laissé entrevoir dans les première promo quand Kenny Omega a gagné à All Elite, le collecteur de ceinture. Est-ce que, selon vous, on peut s'attendre à autre chose, à des ceintures qui ont un réel impact dans la scène mondiale de la lutte, ou c'est juste ça? C'est juste comme une fédération au Mexique, le plus petit joueur aux États-Unis, sa ceinture All Elite, qui, elle, est legit, puis that's it. Ça va-tu avoir été au final, si ça s'arrête là, ça a-tu été un coup de poing dans l'eau, cette gimmick-là de belt collector?
Ben, moi, je pense que les récents événements avec la victoire à Impact et le Dynamite d'hier m'ont fait germer une idée qu'on l'oublie, puis qui était un peu dans notre face depuis tout ce temps-là, parce que là, John Moxley court encore après Omega avec Eddie Kingston, il veut avoir sa peau, là, il va avoir son match par équipe avec Tozawa. L'objectif de Moxley, c'est de revoir Omega dans les pattes. Et qu'est-ce qui... Parce que là, la Forbidden Door va s'ouvrir la semaine prochaine, parce que John Moxley va affronter Yuji Nagata pour le championnat des États-Unis de la New Japan, mais ce championnat des États-Unis-là, le premier qui l'a porté, c'est Kenny Omega. Qu'est-ce qui empêche Kenny Omega de ne pas dire à Moxley, fine, tu veux ton autre combat parce que tu veux m'avoir dans le ring, tu mets cette ceinture en jeu parce que je suis le collectionneur de ceintures.
Ça, c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à ça, puis ça me semble, parce que je voyais mal, en fait, comment il pourrait aller, bon, Omega, chercher une ceinture, disons, importante, là, dans une, mettons, à la New Japan, mais là, tu viens d'établir quand même
un
travail assez, assez intéressant, puis tu sais, ça fait que oui, la Forbidden Door continue d'être ouverte, mais tu sais, elle reste entre-ouverte, parce que t'as pas nécessairement un gars de New Japan qui viendrait un gars exclusif à New Japan qui viendrait perdre contre Omega un titre de la New Japan. Si c'est Moxley lui-même qui le perd, c'est comme, je trouve, c'est un compromis qui pourrait être alléchant.
C'est ça, puis c'est vraiment la présence de Nagata qui me fait dire ça, parce que oui, il y a eu Kenta qui est venu brièvement, mais là, c'est un deuxième lutteur de New Japan qui vient faire son tour à Dynamite. C'est qu'il y a clairement une intention d'avoir une relation de travail. Je ne pense pas que Kenny Omega va aller faire le Tokyo Dome dans 6 mois, ce qui serait probablement le souhait de New Japan.
Ben, il va falloir amener, parce que là, à date, dans cette peut-être nouvelle relation potentielle-là, All Elite prend. On a pris Kanta, on prend Nagata pour faire défendre la ceinture de Mox ici aux États-Unis à All Elite au lieu de sur. C'est des fois les nouvelles tournées nord-américaines qui là, ont peut-être moins lieu présentement avec la pandémie. Mais il va falloir que All Elite donne quelque chose. Puis c'est peut-être ça. C'est peut-être Kenny qui va redéfendre au pire cette ceinture-là au Tokyo Dome.
Mm-hmm. Moi, je pense que le Clash of Champions, ça va être un autre Madison Square Garden.
Ah, wow.
Peut-être pas dans une fin de semaine de WrestleMania, mais peut-être ils ont tout le temps autour de septembre All Elite là, qui font le All-In. Fait qu'ils vont peut-être se dire, ah, novembre, on pourrait faire un gros. Tu sais, je ne sais pas si ça va être quoi leur timing avec New Japan, mais il y a clairement une intention parce que le New Japan a sa ceinture américaine Open Weight, que c'est un Américain qui a, c'est pas un gars de New Japan, c'est Tom Lawler qui l'a ramassé à la fin de leur tournoi contre un gars de la Ring of Honor, Brody King. Donc, tu sais, New Japan s'installe aux États-Unis. Moxley a encore cette ceinture-là, ça fait au-dessus d'un an. Le Omega, tu sais, il est allé au pay-per-view d'Impact. Il va retourner au Mexique. Donc, je pense que le jour où il décide, OK, on fait un Clash of Champions à Madison Square Garden avec du talent de toutes ces fédérations-là, Impact, All Elite, New Japan, en disant que c'est une espèce de bigger than WrestleMania, je suis intrigué. Je suis vraiment intrigué parce que c'est de même qu'ils peuvent faire un gros coup d'éclat, c'est en étant l'espèce d'alliance des fédérations. Et là, une fois de temps en temps, tu te rassembles. Et si ton élément rassembleur, c'est un champion heel qui a plein de ceintures, puis que tout le monde veut un morceau de lui, puis au pire, tu le double book dans cette soirée-là pour le faire perdre une ceinture, je pense qu'il y a un terreau. C'est peut-être pas ça, pas en tout le plan, puis on est dans le champ, mais moi, les indices que j'ai, de voir Tony Khan un peu partout, d'entendre ce que Tony Khan dit aussi, qu'il est ouvert à ses relations de travail-là, qu'il veut décloisonner tout ça, de voir l'ouverture de New Japan, de voir CMLL qui a fractionné sa relation de travail avec Ring of Honor, mais pas avec la New Japan. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'on veut une scène indie très, 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 très forte, puis la ceinture d'Impact, sans la dévaloriser, quoique j'ai de la difficulté à la valoriser, je pense que c'est juste le début de cette histoire-là. C'est le premier pas vers une histoire vraiment plus grosse et dans laquelle l'Impact va être un joueur mineur.
Tant mieux, parce que moi, ma peur, c'était que ça soit ça. La fin de la chose, quasiment. Tu sais, qu'il fasse juste la reperdre éventuellement, puis that's it. Puis c'est pour ça que je me disais, si c'est juste ça, ça va avoir été décevant au final. Parce que comme tu dis, c'est que là, on fait le testy book, puis on rêve à plus, on rêve à des titres IWGP, puis si ça vient pas se mélanger un peu à tout ça, ça va avoir été décevant, parce qu'au final, Impact, c'est pas un joueur majeur, tu sais, je veux dire, on en a parlé, on les a suivis un peu plus grâce à All Elite, puis est-ce que, ma peur, c'est qu'au final, ça... Tout ça soit simplement ça. Ça soit comme, hey, Impact, donnez-nous vos belts principales pendant quelques mois. On va les donner à Kenny. Kenny va venir sur votre show. On va vous donner des eyeballs de plus. Puis, moi j'ai peur que ça soit ça, au final, la relation puis le plan.
Mm-hmm. Ben, c'est ça aussi, c'est que c'est bien beau accumuler des ceintures, sauf que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est que là, Impact, ils ont deux ceintures principales pour un roster qui n'est pas très, 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 très large, très, très important. Mais là, ils ne peuvent pas, cette compagnie-là, juste accepter que leur champion ne soit pas présent dans leur émission. Donc, ça implique que Kenny Omega, oui, il y a des ceintures de plus, mais il faut qu'il aille faire des apparitions fréquentes dans cette émission-là. Eux autres, ils ont une émission hebdomadaire, Impact. Donc là, on se dit, s'il continue à accumuler d'autres championnats de la sorte, ben, il y a quand même juste 7 jours par semaine là, Kenny Omega, il a besoin de pouvoir avoir des journées de congé de temps en temps. Donc, c'est intéressant, mais sauf que logistiquement, les compagnies ne risquent pas d'accepter de juste céder leur championnat sans avoir en retour justement la présence du champion dans leur show. Donc, c'est le problème logistique, mais je pense que Impact, eux, c'est à leur avantage pour l'instant parce que, justement, ils n'ont jamais eu autant de ventes de pay-per-view là, pour celui de la fin de semaine passée que celui qu'on vient de connaître. T'sais. Donc, eux, ils sont gagnants à court terme, mais ça ne pourra pas durer trop longtemps, je pense. Pour la santé de Kenny Omega, en fait.
T'sais. C'est à voir. Je pense aussi pour ça que les Young Bucks ont flippé du côté de The Elite. C'est que ça va prendre des présences de The Elite à Dynamite chaque semaine qui ne sont pas forcément Kenny Omega. Ouais. Donc, si tes box peuvent transporter un peu tout ça, si Nakazawa, si les Good Brothers, si quelqu'un d'autre éventuellement, ben comme tu dis, là, Omega va dire « Ah ouais, ben là, je suis obligé d'être à Impact. S'il faut que j'aille faire une petite défense au Mexique, je peux avoir 3-4 jours de break. Mm-hmm. » Donc, à un moment donné, ça va jouer parce qu'il ne défend pas super souvent, là, la Mega Champion. Donc, à la limite, il faut qu'elle perde et ou qu'il la défende. Donc, tout ça est quand même vraiment intéressant, mais le seul bémol, c'est que ça commence avec Impact Et là, tu sais, tout le monde avait des yeux sur Impact, leur pay-per-view, puis tout ça. Mais je ferai pas de détour, là. Impact, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font. Là. C'est pas intéressant. C'est une ligue mineure, Impact. Là. C'est, ils essayent bien fort, ils ont des bons talents.
Ouais, puis il y a plein de noms qu'on aime. On parle à Josh, on pense à Josh Alexander qui est devenu champion X-Division en fin de semaine passée.
Tu sais, t'as le retour de Cass là, qui est rendu W, son vrai nom, là, je me souviens plus de son nom de famille.
Morrissey,
oui, c'est ça, mm-hmm. W. Morrissey. Tu sais, ils ont des bons talents, il y a de la bonne lutte à Impact, mais le produit, c'est un produit de Ligue mineure. Leur pay-per-view, c'était pas différent de leur show télé, là. Il y en a juste une image différente sur le fond. Fait que tu sais, ils sont clairement pas dans la même ligue. Fait que j'ai pas plus envie de voir ce qu'Impact fait. Ce que j'ai envie de voir, c'est comment Kenny Omega va gérer tout ça. Et à la limite, si des gars d'Impact vont venir à Dynamite, ben là, je vais être content de les voir lutter dans un show de calibre. C'est surtout ça que j'ai hâte de voir.
Mm-hmm. Je me dis, je comprends qu'ils soient allés vers Impact à cause de Don Callis notamment, mais j'ai l'impression que j'aurais eu plus de fun à voir une telle collaboration avec NWA. Je dis ça, je ne sais pas si leur émission Power, ça existe encore, mais tu sais, quand ça avait commencé puis j'avais vu le type de produit un peu vintage qui était offert, j'avais vraiment trouvé ça cool. Puis tu sais, T'sais, dans ma tête, je vais mettre NWA Power et Impact, leur émission hebdomadaire, dans la même catégorie, sauf que j'ai une espèce de préjugé positif pour NWA. Peut-être que ça pourrait être une éventuelle option là, pour Omega, donc le championnat de sa fédération. Là.
Ça se pourrait, parce que la NWA est toujours up and coming. En fait, la NWA gagnerait à s'associer avec All Elite. Je ne sais pas ce que Billy Corgan a comme position là-dedans. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de relation de travail. Là. Mais c'est Tom Lawler avec New Japan, ça, c'est très intriguant, par contre. Parce que ça veut dire que cette branche américaine-là de New Japan pourrait servir de point de pivot à la scène indépendante. Donc là-dessus, moi, je suis intrigué. Puis il est super bon, Tom Lawler, là, si vous avez la chance de voir ce qu'il fait. Vraiment intéressant.
La semaine prochaine, vous en avez déjà glissé un mot, c'est All Elite Blood and Guts, dont le combat Blood and Guts entre Pineapple entre Pineapple et l'autre gang, The Inner Circle. Et aussi, bon, l'autre match qui est annoncé, c'est l'affrontement IWGP US Mox contre Yuji Nagata. Stéphane, parle-nous de Yuji Nagata.
C'est une légende de la New Japan. Vous allez, si vous ne l'avez jamais vu, vous allez peut-être faire le saut parce qu'il est vieux. Il est dans la cinquantaine, Yuji Nagata. Mais Yuji Nagata a été champion IWGP. On parle fin 90, début 2000. C'est avant la wave de Tanahashi. Nagata a pas mal tout eu à la New Japan. C'est juste que c'était la vague avant Tanahashi, avant Okada. Donc, tu sais, c'était un petit peu moins hot, la New Japan, dans ce temps-là. Mais là, j'y vais de mémoire, mais je pense que c'est voilà 3 ans qu'il avait fait une espèce de retour au G1, puis on a fait « Wow, OK, il est encore capable. » Évidemment qu'il ne sera pas champion du monde, puis que c'est fini ces runs-là. Mais Yuji Nagata est un nom assez gros pour juste arriver dans un building au Japon puis faire un oh, un peu comme... La comparaison va être boiteuse, là, mais un peu comme Edge. Tu te doutes que Edge n'aura pas une run de champion du monde, mais quand il rentre, il y a cette espèce d'aura-là. Yuji Nagata est un peu ce genre de vedette-là. C'est pour ça que c'est pas banal que ce soit lui, même si c'est très random que Moxley fasse juste « Hey, je vais affronter Yuji Nagata ». C'est une affaire de respect. C'est Moxley qui reconnaît que Yuji Nagata est un gros nom, puis comme ben, « Moi, je vais donner une chance à une des légendes de la New Japan ». Puis ce gars-là, quand il accroche ses bottines, il s'en va au temple de la New Japan. C'est un immortel, la New Japan. Donc, c'est pas Yuji Nagata de 25 ans dans son prime, mais c'est quand même un gros morceau. Et j'ai hâte de voir comme si New Japan prête Yuji Nagata à Dynamite et le fait voyager aux États-Unis pour ça, c'est qu'il y a quelque chose en arrière. Je pense vraiment pas que c'est juste parce que Nagata s'ennuyait chez eux et qu'il n'y avait rien à faire. Là.
J'aime ça. Très bon. Mathieu, je veux qu'on parle de Blood and Guts. Pas le combat, l'événement en tant que tel. Tu sais, on a souvent parlé de la E puis des pay-per-view puis de comme amener tout ça devient un peu superflu dans le monde dans lequel on vit, où un abonnement au network te donne accès à tout ça. Puis là, il me semble que c'est le fun, ces épisodes-là un peu spéciaux qui reviennent puis qui servent de cogner sur le clou, comme c'est pas un pay-per-view, mais il y a des grosses affaires qui se passent en fin de semaine. Qu'est-ce que tu penses de
J'aime beaucoup
tout ça?
la formule, tu sais, assez récemment. Ben, je suis même plus sûr s'il y en avait eu un autre depuis, mais tu sais, je me souviens qu'il avait fait aussi un événement spécial qui était brandé Winter is Coming. C'est là que Sting était
Ouais, c'est
revenu.
ça.
Et j'avoue que je trouve que la formule devrait être adoptée par la WWE également. Là, tu sais, on va avoir Backlash. En fait, là, il aura brandé genre WrestleMania Backlash
WrestleMania.
Là, maintenant, mais on sait tous que c'est pas un pay-per-view dans lequel il va se passer des choses vraiment intéressantes. Puis, je trouve que, bon, peut-être que je comprends que la machine de la WWE est, tu sais, c'est une machine qui est quand même bien rodée. Ils sont habitués de raconter les histoires de la même façon. À chaque mois, tu as un pay-per-view. Les épisodes hebdomadaires à TV contribuent à construire les rivalités qui vont aboutir, entre guillemets, à ce pay-per-view-là. Sauf que quand on sait d'entrée de jeu que c'est un pay-per-view qui est mineur, bien, ça nuit quand même à notre investissement émotif. Et justement, comme ça avait été le cas là, avec le dernier, c'était-tu Roadblock ou Fastlane? Là, comme tous les pay-per-views comme ça, on devrait en faire simplement des épisodes hebdomadaires. Surtout, comme tu le mentionnais, on n'a plus la pression de vendre des galas pay-per-view. Là, je veux dire, ça fonctionne juste par abonnement. Alors, je ne pense pas que ça va arriver, par exemple, du côté de la WWE, mais je pense que c'est vraiment un aspect de la AEW qui lui permet de se démarquer de façon très positive, si on veut, de son principal compétiteur, parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement à chaque semaine, mais presque des nouvelles raisons d'écouter Dynamite le mercredi soir.
Absolument.
Oui, puis non seulement de l'écouter, mais de le regarder live, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Fait que tu sais, si la guerre des codes d'écoute est encore réelle aux États-Unis, quand j'ai l'option, moi, je vais essayer de le syntoniser en direct. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils veulent aller chercher leur chiffre dans les key démos de Chris Jericho. Là. C'est à 9h30 le mercredi soir, je veux que le monde soit live devant le TV. Donc, c'est comme ça que tu fais ça, en créant des événements.
Même si l'événement lui-même, c'est pas mal War Games, mais avec un autre nom. Je regardais les règlements de ce match-là. Bon, deux rings collés dans une cage. Il y a comme deux personnes qui commencent au début. Après ça, à chaque 5 minutes, il y en a d'autres qui arrivent. Puis je pense que la principale distinction, c'est, de ce que j'ai compris, il faut que ça se finisse par soumission et non pas par un tombé. Là. Donc,
c'est
peut-être à vérifier. Là, mais bon.
De toute façon, le concept du War Games, c'est Dusty qui l'a mis sur la table. Fait Cody n'a comme pas le choix.
C'est vrai, c'est vrai, dans le fond.
Ils disent que c'est Submit ou Surrender.
Ah, c'est ça. Fait que l'objectif va être de faire dire à MJF I quit ou quelque chose
genre. Mais oui, on sait que Cody a tout fait pour essayer de copyrighter le terme War Games. Puis au final, c'est leur version un peu à eux.
Profitons-en juste deux secondes, étant donné qu'on parlait de ce match-là. Profitons-en pour souligner à quel point je trouve que ça a été très smooth et organique. Le face turn de Inner Circle, qui depuis le tout début de la AEW est la principale faction méchante. Chris Jericho n'a été qu'un méchant à la AEW depuis tout le début. Et maintenant, en les faisant affronter. Donc, quelqu'un qui est encore plus haïssable, à savoir MJF, ils ont vraiment réussi à les tourner. Puis, tu sais, ça nous rappelle cette règle de base de la lutte. Hein. Pour avoir un gentil qui est fort, bien, ça prend un méchant qui est fort. Et là, on l'a vraiment vu comment ça s'est concrétisé, cristallisé, là, cette magie-là. Et maintenant, plus personne n'a de misère à accepter Chris Jericho comme un babyface. Et même chose pour tout son clan. Donc, de la très belle ouvrage.
Absolument. Ouais. Rapidement, là, sur d'autres choses qui s'est passé un peu à Dynamite. Miro s'est finalement débarrassé de Kip Sabian. Est-ce que c'est le début d'un réel push pour Miro? Est-ce que Miro va devenir une figure d'affiche à Dynamite? Ou on s'attend à ce qu'au final... Est-ce que l'avenir de ce gars-là, c'est du mid-card, peu importe où il lutte? C'est un peu ça, ma question.
Ben, je sais pas. Là. Ils vont comme, tu sais, ils vont le débarrasser de cette espèce de porte d'entrée qu'il y a eu, là, ouais. D'être le best guy, puis de l'angle des jeux vidéo. Là. Je pense qu'ils vont s'éloigner de ça. Là, avant d'atteindre autre chose, il faut qu'il se débarrasse de Kip Sabian. Là, oui, il a mis la main dessus une première fois. Je pense que ça va encore être une couple de semaines à tourner autour de Kip Sabian, puis à faire son point que les champions sont sur la sellette parce qu'il s'en vient. Mais Miro a comme cette aura-là qu'il faut que tu l'utilises. Je ne sais pas si ça va être ton champion, mais il faut que tu l'envoies l'impact d'un champion plus tôt que tard, probablement dans les pattes de Darby Allin éventuellement. Tu veux avoir Sting qui interagit avec ce monde-là. Il est jeune, il est hot. Je pense que oui, mais ça fait quoi? Au moins 8 mois qu'il est là, si c'est pas plus. Donc, c'est quand même long avant qu'il fasse de quoi avec Miro. Sauf que là, au moins, il est plus goofy, il porte plus des chemises à fleurs et des affaires louches. Ils ont compris que c'était un méchant et qu'il fallait que tu le buildes de même. Ils sont pas retombés dans le vieux pattern de « on va en faire un méchant bulgare qui parle avec un accent ». ». Ils ont juste fait péter une coche et il est méchant. Je peux vivre avec ça.
Ça a été une drôle d'entrée en matière quand même pour Miro. C'est pas l'entrée en matière que tu donnes à quelqu'un que tu vois tenir ta ceinture de champion du monde éventuellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, contrairement, mettons, quand Christian est arrivé, où là, tout de suite, on l'a établi comme de second coming of God, puis tout de suite, il va vouloir peut-être challenger pour la belle, etc., etc. L'entrée en matière que Miro a eue n'a pas été ça, disons.
Moi, j'avoue que personnellement, étant donné que je n'aimais tellement pas cet angle-là avec Kip Sabian, que quand j'avais l'occasion, quand c'est ça qui arrivait à TV, ben je zappais, j'allais regarder autre chose. À ce moment-là, j'allais du côté de NXT parce que les deux shows étaient en même temps. Donc, mais c'est plutôt lié à ma gestion, si on veut, de la lutte, mais puisque j'écoutais pas ces segments-là, ben Miro n'a pas été gâché dans mon esprit. Cela dit, depuis la semaine passée, il a fait une espèce de promo en vidéo package qui était d'ailleurs très réussi. Là, sa ligne « You got a title, you got a problem », c'est simple, mais c'était très efficace. Cette semaine, il a très bien paru. Donc là, moi, c'est là que j'ai commencé à accrocher à lui. Principal problème que je vois, là, peut-être que je vois des problèmes qui ne sont pas là en réalité, mais c'est que j'ai l'impression qu'on veut le présenter comme un lutteur qui est dans un moule semblable à Brian Cage, qui a un push aussi présentement. Là, c'est vraiment des lutteurs imposants physiquement, des espèces de brutes.
Grosse victoire contre Hangman Page, qui était ranké numéro 1 cette semaine. Fait que ça risque de brasser le classement.
C'est ça. D'ailleurs, spécifions qu'il y a beaucoup trop de lutteurs à la AEW qui s'appellent soit Cage ou Page. Là, ça devient vraiment mélangeant. Christian Cage, Brian Cage, Ethan Page, Hangman Page. En tout cas,
qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient tous flusher leurs prénoms puis juste les appeler par le nom de famille. En général, ça marche, ça, comme...
Paige à WWE, elle ne travaille plus. Il devrait l'engager et lui donner le job de Paige. Paige. Mais ça, pour dire que ça, là, j'ai l'impression que Brian Cage a, du moins dans les prochaines semaines, voire prochains mois, un peu le spot qui pourrait être celui de Miro. Cela dit, ben, peut-être que Cage va aller dans les pattes de Omega. Si lui, justement, en battant Hangman Page, ben, il a un bon classement puis il en fait un adversaire intéressant pour la ceinture principale. Et à ce moment-là, ben, Miro pourrait aller du côté du championnat TNT. Ça pourrait être une bonne option. Mais j'aurais l'impression de voir à peu près la même histoire ou le même type d'aspirant en double. Puis ça, je trouve ça moins intéressant.
C'est vrai qu'ils ont un peu le même casting. J'ai failli le dire en parlant de Miro, que Brian Cage était déjà dans ce département-là. Ouais. Mais je pense que Miro est meilleur, mais il est juste mal booké.
Mm-hmm. Faisons un petit tour du côté de la WWE dans le ring pour commencer. Bon, Brian Reigns dans une cage la semaine prochaine. Bon, ça va être bon, ça va être le fun. Mais là, la présence. Quand on dit que Reigns perd la ceinture ou Brian est banni, on peut s'attendre à ce que Brian soit banni. Donc, ça veut dire quoi? Raw, NXT?
Ben, je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait du côté de Raw. Quoique, ben, si on suit un peu les nouvelles et les entrevues qu'il fait depuis quelques semaines depuis WrestleMania, on sent que Daniel Bryan a toujours été défini par son espèce de soif infinie de lutte professionnelle, son amour indéfectible pour ça. Puis, ça l'a ben gros motivé justement après sa première retraite, si on veut, à continuer de se battre là, pour être en mesure d'effectuer un retour au ring. Il incarnait la passion en quelque sorte. C'est le lutteur qui est plus petit que les autres, mais que par sa passion, il réussit à atteindre les hauts sommets. Et là, de son propre aveu, ben, la passion est en train de décliner de façon importante. Hein. Elle disait même que lors du main event de WrestleMania, je disais, la grande majorité des lutteurs rêvent de pouvoir être dans le main event de WrestleMania, mais lui-même, il faisait le match puis il se sentait un petit peu détaché, même dans les semaines précédentes. Il aurait fait des pressions à la production, aux têtes dirigeantes de la WWE pour ne pas faire partie de ce triple threat-là. On sait que son contrat arrive à terme bientôt. Donc, c'est vrai qu'initialement, j'aurais pensé à Raw, mais peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus utile du côté de NXT. J'ai l'impression que NXT pourrait bénéficier aussi de Daniel Bryan. On voit leur code d'écoute, ça ne va pas super bien, là, même s'ils ne sont plus en compétition avec Dynamite. Donc, je n'avais pas pensé avant que tu le suggères, mais je pense que ça pourrait être une option intéressante.
En même temps, il y a déjà beaucoup de monde à NXT. Je ne sais pas s'il ne va peut-être pas juste prendre un petit break. T'sais, il a mentionné qu'il essayait de les convaincre de rester à leur emploi, mais d'avoir le droit de lutter un peu partout dans le monde. On voit que sa motivation à D-Bry, là, je pense qu'il a plus envie d'aller faire là, les quelques dream matchs qui restent partout sur le globe plutôt que de rester à la WWE et d'être pogné des fois dans des storylines qui sont pas...
Je pense aussi qu'il y a un pied dans la porte et qu'il essaie de s'en aller sans brûler le pont.
Peut-être.
Ça n'a pas l'air d'être son genre, de, un peu comme Punk, de juste crisser le feu puis s'en aller.
Ouais.
Mais on dirait qu'il a l'air squeezé dans « ma femme, elle travaille avec eux autres.
Ouais. »
J'ai 10-12 ans de passer avec eux. Je vais probablement être impliqué dans tout ce qui est Hall of Fame.
Je veux garder le chèque de légende. Puis
C'est ça. Mais il a l'air d'un gars qui est un peu tanné. Fait que là, présentement, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'il va perdre et qu'on va le perdre de la télé un petit temps.
Mm-hmm.
Son contrat vient à échéance quelque part cet été. Peut-être qu'il va juste le laisser aller jusqu'à la fin de son contrat. Puis là, il va décider, je reviens-tu, puis un gros pas. Peut-être qu'il va juste pas revenir, puis ça va être ça. Tu sais, je pense que la décision n'est pas prise. Dans le booking qu'il nous montre, puis dans ce que lui dit en entrevue, je pense que la décision n'est pas prise. Mais si j'avais un vieux 2 à gager là-dessus...
Les vieux 2 qui valent 10, là?
Les vieux 2 qui valent 10, je pense que Daniel Bryan va se promener un peu.
OK. Moi, je pose cette option-là.
Non, on aimerait voir ça, c'est sûr.
Absolument. Autre chose que je veux vous parler, Cesaro. Grosse victoire contre Rollins à Mania. Là, on tease cette semaine qu'il va peut-être bientôt se ramasser dans les pattes de Reigns, même si là, on fait un arrêt par Daniel Bryan, un cage match avant. Est-ce que vous y croyez à un vrai push pour Cesaro, à une vraie présence soutenue dans le haut de carte, dans les main events, avec son nom sur la marquise pour headliner un pay-per-view au-delà de juste Cesaro contre Reigns? Parce que ça va arriver, clairement, on semble vouloir aller là. Y a-t-il autre chose après pour Cesaro où il est doomed à revenir mid-card puis redevenir champion US d'ici 6 mois?
J'aimerais bien
aimer vos ça faces, pouvoir dire... J'ai vu vos noms de la tête, puis c'est comme, oh, vous me brisez le cœur.
Ouais, ben c'est ça, j'aimerais bien ça pouvoir dire que oui, comme l'avenir est rayonnant. Je pense qu'il est rayonnant en mesure où il va avoir des matchs de main event contre Roman Reigns. Il va être là, il va avoir une feud de quoi 3 mois avec lui qui va finir par perdre. Je pense que qu'est-ce qui m'a en quelque sorte convaincu, tu sais, je veux dire, après WrestleMania, c'est comme ça y est, c'est le moment là, on lui donne la chance. Et là, je suis plus certain si c'est au début de SmackDown de la semaine passée ou de l'autre d'avant, mais l'épisode commençait avec Cesaro au milieu du ring avec un micro dans les mains. Okay? Fait que là, tu te dis, bon, OK, c'est le show commence avec une promo de Cesaro. Et en bout de ligne, avant même qu'il ait le temps de dire un traître mot, là, il y a des interruptions. Tu as genre Jey Uso qui arrive ou Roman Reigns ou whatever. Il l'invective. Là, puis là, tu as Daniel Bryan qui arrive pour parler à la place de Cesaro. Puis en bout de ligne, le segment de genre 12 minutes fini, Cesaro est juste resté au milieu du ring avec un micro dans les mains qu'il n'a pas utilisé une fois. Puis ça, je me suis dit, ben garde. C'est le rappel dont on avait besoin, le reality check dont on avait besoin pour comme nous rappeler l'endroit qu'occupe Cesaro dans l'organigramme. C'est un excellent lutteur, mais ses faiblesses au micro. C'est malheureusement, même si moi je suis prêt à lui pardonner, on comprend qu'à la WWE, c'est trop grave, puis ça va l'empêcher de gravir les vrais échelons.
Savez-vous c'est quoi son push présentement? C'est son petit nanan pour avoir signé une prolongation de contrat.
Ah ouais.
Parce que Cesaro était sur le bord de peut-être partir ou de juste explorer ses options. Avant WrestleMania, on en entendait parler, son contrat achève, il va faire quoi? Le Cesaro est resté. Fait que oui, t'as le chèque, évidemment, t'as l'argent. Mais probablement que dans ces négociations-là, il s'est fait dire « Hey, on va te donner un push. » Ils vont y donner. Ils vont y donner, comme tu dis, une rivalité de 2-3 mois. Puis après qu'il y ait eu son anane, il va redescendre. On l'a vu des dizaines de fois. Des gars qui étaient sur le bord de partir, qui avaient un pied dans la porte. Dolph Ziggler est un exemple. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont fait le coup 3 fois. C'est l'espèce de petit nanane d'après signature. Puis après, ben, on retombe dans nos pantoufles. T'es un gars fiable, on va te booker dans des angles un peu louches. Tu vas être là sur la route pour les house shows, tu vas être la superstar. On va te donner un partner à un moment donné, tu vas avoir des matchs par équipe. C'est juste le nanan d'après signature. C'est plate, mais ça va être ça.
Ouais.
Hey, c'est bon. Vous voulez être downer? Vous voulez, on va parler d'affaires. On va parler d'affaires plates. On va parler d'affaires déprimantes. L'an dernier, le 15 avril 2020, je crois bien, en plein début de pandémie, on avait la WWE avait releasé un groupe de lutteurs. On avait appelé ça quasiment, si je me souviens bien, comme une espèce de Black Wednesday, là, mercredi noir, en plein début de pandémie. On les avait castés pour un move qui n'a pas de place. Et là, un an après, jour pour jour, dans ce qui est extrêmement classless aussi, à mon avis, on refait le même coup avec une autre série de release. À la limite, bon, c'est une chose, ils ont le droit de plus vouloir employer certains lutteurs, ça c'est correct. Il y a des noms là-dedans qui ne font pas beaucoup de sens, à moins que ce soit réellement eux qui veulent s'en aller. Puis là, en tête de liste, on n'a pas le choix, il faut qu'on parle de Samoa Joe. Ça aura été une aberration de ne pas voir Joe lever la ceinture de champion de la WWE dans les airs pendant son règne à la île. C'est ridicule.
C'est quoi, il y a 2 semaines, ça s'est passé. C'est lors du dernier épisode qu'on a fait. Puis là, je faisais la prédiction. Ouais. Hey, Samoa Joe va revenir. Il va s'aligner avec Roman Reigns. Ça va être awesome. 45 minutes après qu'on ait enregistré la nouvelle sortie, je suis comme, hey, je vais-tu avoir l'air d'un beau tweet? Donc, ben voilà, ça m'a comme complètement brisé le cœur. J'ai tellement été un fan de Samoa Joe. Et il y avait tellement, les astres étaient tellement alignés pour lui. Je pense que c'est comme autour là, du célèbre, le mythique pay-per-view Great Balls of Fire. Là,
mythique, c'était comme, oui, légendaire.
C'est lui qui tournait autour de Brock Lesnar. Les interactions qu'il avait eues avec Brock Lesnar puis avec Paul Heyman à ce moment-là, là, c'était de calibre absolument légendaire. Même selon les échos de vestiaire, les histoires qu'on peut lire, Brock Lesnar lui-même avait tellement été impressionné par Samoa Joe qu'il avait proposé à la WWE, il avait accepté de lui laisser le titre. C'était lui qui était champion universel à ce moment-là. Il acceptait de perdre contre Joe, sauf qu'à ce moment-là, on était tellement focussé sur ben voilà, continuer de construire Roman Reigns en notre principal babyface que Joe en a écopé, puis c'est malheureux parce que je pense qui aurait été un excellent champion, soit WWE ou Universel. Maintenant, mais ça ne se produira plus. Là, je sais qu'il était miné par les blessures. Bon, on n'a jamais su exactement c'était quoi le type de blessure qui l'avait empêché de revenir dans le ring. Mais c'est ça. Je trouve ça malheureux qu'on ait coupé les ponts.
Oui, le mot gaspillage vient en tête avec c'est Joe, parce qu'il l'avait. Là, c'était là, après la run à NXT, Joe a tout fait ce qu'il avait à faire. Puis il a juste manqué la petite switch à la fin. Puis là, c'est ça, les commotions sont venues, les problèmes de cou. Puis même à ça, à la table des commentateurs, moi, Joe, toujours été ça, belle fun.
Ça fait un bel job.
Mais c'est ça, là, on est rendu qu'on a TNA qui tease Joe dans ses vidéos package de Slammiversary. Pitié, non, là, qu'il n'aille pas perdre son temps avec TNA. Là, mais tu sais, Joe est libre, on ne sait pas s'il est en santé.
Il y a des noms là-dedans qui ne sont pas surprenants. C'est Bo Dallas, Mojo Rawley, c'est des gars qui n'étaient pas utilisés. Wesley Blake, qui était un peu pogné là, dans la controverse des Forgotten Sons, on s'attendait à ça. Tucker, vous vous rappelez, on l'a dit à la seconde où ils ont monté un peu lui puis Otis. C'était comme, lui, il ne travaille pas là dans 2 ans.
Ouais. Otis est tout seul, Tucker plus là. D'ailleurs, il tease qu'il va raconter son histoire. J'ai hâte de voir ça.
J'ai hâte de voir ça. Kalisto, peut paraître surprenant, mais quand on entend, moi j'ai appris cette semaine, je ne savais pas ça, que c'est lui qui avait demandé de sortir de Lucha House Party, qui n'aimait pas, on l'avait convaincu de ça, puis lui n'a jamais trippé d'être dans cette faction-là, puis je pense que c'est un gars qui voulait clairement s'en aller. Puis là, après ça, on tombe dans les noms qui font mal, puis c'est les noms de femmes. Billy Kay, Peyton Royce, les Iconic, moi je continue de dire que je ne comprends pas pourquoi on les a splittés, que c'était un acte qui fonctionnait, que c'était pas nécessairement les meilleurs dans le terme de ring work, mais qu'ils ont toujours été extrêmement divertissantes. Mm-hmm. Billy Kay même a réussi à continuer en solo. Mm-hmm. Puis, ça fait mal. Il me semble que surtout quand tu essaies de pousser ta division féminine par équipe puis que tu crées des équipes qui n'ont pas rapport, quand tu en as une vraie soudée que tu aurais sous la main, ça semble frustrant un peu.
Les ceintures par équipe féminine étaient faites pour ces deux-là. Oui, je ne sais plus s'ils ont été les premières championnes, ou c'était peut-être Bayley et Sasha Banks.
Ils ont été deuxièmes, je pense. Ils ont gagné
mais c'est ça. Puis, il y aurait dû justement avoir plusieurs règnes de championnes par équipe. Bon, évidemment, c'est pas ça. Puis c'est malheureux parce qu'on sait que la WWE. Ils essayent d'intégrer une certaine partie de comédie, mais c'est rare que leur comédie fonctionne. L'essentiel de leur registre de gag, là, d'habitude, c'est d'utiliser de la glu ou de la bouffe à chien ou genre, tu sais, des cochonneries comme ça. Mais tu avais en Peyton Royce et Billy Kay deux filles qui avaient comme un timing comique qui ne s'enseigne pas. Là. C'était vraiment des filles naturelles qui, je sais pas exactement tout de leur passé, mais on dirait qu'ils viennent du monde de l'impro avant de venir. Du monde de la lutte professionnelle. À chaque fois qu'ils faisaient des segments backstage, c'était toujours super divertissant. Donc,
Are you joking me?
C'est ça. Je trouve ça vraiment, vraiment triste pour elles. J'ai l'impression quand même qu'ils n'auront pas trop de difficultés à se retrouver de la job, ces deux-là. Je pense qu'ils jouissent quand même d'un beau, de beau succès d'estime, si on veut, dans la communauté.
Stéphane, vas-y.
Tu sais, Le plus décevant là-dedans, c'est qu'après, on entend les échos que Peyton Royce, c'est probablement parce qu'en coulisses, c'était pas. Il y a une couple de dirigeants qui ne voyaient rien en elle. Mm. Mais Peyton Royce a le checklist au complet pour réussir parce qu'elle a évidemment le charisme, elle a le côté timing d'humour. Dans le ring, il y a pire, il y a mieux. Elle est vraiment correcte, puis elle va progresser. Puis même qu'à la limite, je suis surpris qu'elle n'ait pas levé plus que ça, parce qu'elle a même le passé de culturiste, puis cette espèce de mentalité-là athlétique. Tu sais, c'est un package d'habitude qui fonctionne avec la WWE. Et là, je ne sais pas, elle s'est juste mise dans la mauvaise track, puis après ça, t'es juste tassé. Ma prédiction, c'est que Peyton Royce, d'ici un an et demi, est au sommet d'une division féminine.
Pensez-vous qu'ils vont signer les deux ensemble quelque part?
Je pense que oui. Je pense qu'ils vont suivre.
Que les deux vont essayer de se faire signer ensemble.
Okay. Ils sont un nom qui fait mal, c'est celui de Chelsea Green. Quand on parle de prospect, là, de high prospect, Chelsea Green embarque dans cette catégorie-là. Elle a été... elle a subi beaucoup de blessures dans les dernières années. Ça a ralenti sa progression puis son apparition sur le main roster. Et moi, j'ai été extrêmement surpris d'y voir releaser cette fille-là qui a pour qui The Sky is the limit pratiquement.
Ouais, sérieusement, à moins qu'il y ait de quoi qu'on ne sait pas. Ouais. Elle a juste 30 ans. Elle a eu des petits runs à NXT. Oui, elle s'est blessée souvent, mais là, à part tout ce que tu fais, là, c'est que tu renvoies un prospect dans le bassin que quelqu'un va ramasser puis qui va développer, alors que ta compagnie fait des profits records. Donc, il y a quelque chose de louche là-dedans. Là. C'est juste c'est clair qu'elle se fait ramasser dès qu'elle peut, que ce soit TNA, elle a déjà lutté avec eux, que ce soit Impact, que ce soit même ROH qui parlait de relancer sa division féminine. C'est clair que Chelsea Green ne reste pas sur la tablette. Là.
Je suis entièrement d'accord. Puis le dernier nom là-dedans, lui aussi, il fait mal. Le nom de Mickie James. Mickie James a été ramené il y a 2 ans, je pense, à peu près.
Plus que ça, même. Était rentré par NXT initialement.
Oui, c'est vrai.
Peut-être même 4-5 ans.
On a vu quelques runs, un peu comme légende. Là, Mickie James se fait renvoyer d'une manière, bon, tout le monde en a entendu parler, là, peut-être un peu classless, là, en recevant ses effets personnels dans un sac de vidange, qui a mené au renvoi de Mark Carano, qui était le directeur des relations de talent. Mickie James, là, elle n'a pas 56 ans, elle n'a pas 75 ans, elle a 41 ans. Mm-hmm. Comment on peut considérer que quelqu'un est une légende et est washed up et t'as rien à faire pour elle, à 41 ans, ça me fascine, puis ça montre le double, standard entre les hommes et les femmes. Là, il peut pas plus le souligner en caractère gras qu'avec la situation de Mickie James.
C'est ridicule, de 41 ans, t'as des gars comme AJ Styles à cet âge-là, je pense.
C'est ça.
C'est fascinant. Hein?
Mm-hmm. Ah, puis elle est encore capable de bumper. Puis même, me semble, je n'ai pas suivi là, de façon très attentive ces derniers mois, mais je me semble avoir le souvenir de l'avoir déjà vu peut-être même à table des commentateurs ou remplir un espèce de rôle d'interview backstage, quelque chose de genre. C'est sûr que quand tu as une lutteuse qui a autant donné pour la compagnie puis qui est encore capable d'en donner, tu lui trouves de la job, mais en même temps, on pourrait dire ça pour plein d'autres. Là, j'évoquais Paige tout à l'heure, qui est un peu dans une... Ben, elle, à ce que je sache, est encore sous contrat.
Elle, il y a une question de santé qu'on peut... Mais elle a mentionné cette semaine, elle a beaucoup parlé justement parce que là, l'affaire de sac de vidange a fait la manchette. Elle a un peu plus parlé puis elle a mentionné que il n'y avait personne, ils n'ont jamais été intéressés à y donner rien d'autre qu'un rôle de laquais. Elle a pitché des idées, elle a pitché des idées de storyline pour essayer de mettre d'autres gens over, mais tout ce qu'on voyait pour elle, c'est tu peux être là pour être l'ami d'une, puis that's it. Ça me semble un peu respectueux. Puis là, quand tu embarques dans toute l'histoire, là, Mark Carano, qui était le directeur des relations avec les talents, a passé sous l'autobus. En raison de tout ça, là, l'histoire là, des sacs de vidange envoyés aux talents qui sont releasés. Mais ça en dit beaucoup sur c'est quoi les relations à l'intérieur de l'entreprise. C'est quoi, qu'est-ce qui est accepté, acceptable dans l'entreprise? Parce que tu ne fais pas des choses comme ça. Tu actes pas comme ça quand, quelque part, tu sais... Il faut qu'à quelque part... Ça vient d'en haut. Ça vient d'une culture qui accepte ces comportements-là puis même qui les encourage jusqu'à les pitcher under the bus quand ça sort en public.
Ouais, puis je pense qu'il y a aussi une espèce de culture de... Un coup qu'on décide que t'es plus dans nos plans, on va juste te mettre de côté. Fait que c'est même plus juste de faire des actions concrètes. T'sais, je pense pas qu'il y ait personne qui s'est levé un matin et qui a dit « Ah ouais, Mickie James, elle nous fait fucking chier. On va la faire suer. » C'est juste de... On te met sur une tablette, on t'abandonne et on t'ignore. Et c'est cette culture-là qui est entretenue depuis longtemps. Parce que, tu sais, il y en a qui... On parle que c'est une culture. Puis tu sais, il disait « Ah, Triple H, c'est pas correct. » Puis là... C'est pas Triple H directement qui va aller dire à Mark Carano « Fais ça », mais ce qu'un Triple H va faire, par exemple, c'est de pas vraiment regarder, de laisser aller ce monde-là opérer à leur façon, puis là, t'as d'autres lutteuses qui ont fait « Ah, moi aussi, j'ai reçu mes affaires dans un sac à vidange », puis ça s'est fait de même. C'est cette espèce de « je m'en foutisme-là » qui traîne, qui s'étire, et là-dedans, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est « good job de Mickie James de, d'avoir juste décidé de « ok, je me fais mettre dehors », moi, je vais prendre la balle au bon, puis je vais prouver que ben, je suis capable de travailler. Et non seulement ça, elle s'est fait du hit avec ça. Elle s'est remise sa map, son nom circule. Fait que là, elle a 41 ans, quelqu'un va aller la ramasser quelque part, et c'est clair que des yeux vont se tourner pour faire comme « Oh, c'est quoi le next step de Mickie James? » Elle va aller faire un ou deux podcasts, j'imagine. Elle a juste décidé de prendre ça, puis de rebondir avec... Puis ben, Mark Carano a passé en dessous d'autobus, comme Frank a dit, si c'était pas lui, c'était un autre, parce que ça prenait un geste symbolique du « Oh, on s'excuse », mais Mark Carano va réentrer par la porte d'en arrière comme toutes les autres, parce que John Laurinaitis a fini par revenir, des gars comme Bruce Pritchard au début, c'était Persona non grata, a fini par revenir par la porte d'en arrière, puis là, il y a la grosse chaise. Il y a cette espèce de fraternité-là à l'intérieur de la WWE, ça ne changera pas. L'entreprise a été construite comme ça. La business de la lutte est construite comme ça. Quand t'es un chum, t'es un chum. C'est plate. C'est comme ça. Puis ça se reflète sur les talents parce que quand t'es pas un chum, ben tu te fais traiter comme un vulgaire employé de soutien ou un freelance qu'on s'en fout. Mais quand t'es un chum, on va te donner du lousse, on va pardonner, on va te réintégrer, on va te donner des chances. Donc, il y a vraiment cette grosse culture-là de camaraderie qui n'est pas forcément agréable parce que ça reste une business. Puis tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde pour faire de la bonne business. Puis ça ne marche pas de même dans la lutte.
Absolument. Dernière chose que je veux qu'on discute, puis ça aussi, on reste dans le triste. Il y a l'arbitre Drake Wirtz, je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, qui est, bon, lui, c'est un ancien lutteur qui avait des problèmes de drogue, qui s'est repris en main, puis qui est devenu un arbitre qu'on a vu beaucoup, particulièrement à la NXT, qui est devenu même, je pense qu'il était en charge. De tous les arbitres au Performance Center. Puis là, ben, il a fait parler de lui cette semaine dans un appel qu'il a fait dans des appels publics là, avec, je ne sais pas comment le traduire, le Board of County Commissioners en Floride, là, c'est en tout cas par rapport à la
conseil
réglementation.
Municipal, là.
Exactement.
Ouais, genre, là.
Bon, pour blaster les officiels parce qu'ils ont décidé de continuer à forcer les mandats de porter des masques. Puis là, il s'est mis à utiliser des espèces de théories de conspiration là, de droite, là, d'enfants kidnappés par des pédophiles démocrates.
Son argument, c'est que genre les masques rendent plus facile la traite des enfants parce que justement, les pédophiles peuvent se cacher le visage. Et donc là, s'il vous plaît, les décideurs, pensez à nos enfants. Puis je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, là, mais il dit ça en braillant. Il est vraiment comme deep inside the rabbit hole.
Tout ça en portant un chandail NXT.
Ben, c'est ça.
Puis là, ben, ça a amené à... Il a été suspendu, on s'attend, parce que peut-être qu'il soit carrément renvoyé de la WWE. Puis c'est triste de voir tout ça, de voir comment il y a des gens qui, dans les dernières années, avec la montée de toute la politisation de toutes les règles de sécurité, c'est hallucinant de voir ça. Joey Janela sur Twitter a mentionné, qu'il dit la dernière fois que j'y ai parlé au téléphone, il essayait de me dire que les Proud Boys, c'était pas des racistes, que c'était des patriotes, puis que j'étais manipulé par les médias de gauche. Puis, tu sais, c'est triste parce que lui, il a réussi à tourner sa vie complètement de bord. Sa vie n'allait pas bien, il l'a viré de bord. Puis là, en embarquant là-dedans, il l'a reviré de l'autre bord. Puis
Ouais, c'est malheureux. Mais je me souviens, j'avais d'un moment en particulier où j'avais eu beaucoup de respect pour son travail d'arbitre. C'était un match. Je sais pas si c'était Imperium contre Undisputed Era, mais en tout cas, tu avais Alexander Wolfe qui avait mangé un coup de genou de Bobby Fish d'en face, puis ça l'avait comme complètement sonné. Puis, tu sais, c'est quand même rare qu'on voit les arbitres avoir à gérer en une fraction de seconde une réelle blessure dans le ring, ça arrive, mais tu sais, j'avais regardé en 3-4 fois la vidéo de sa gestion de la situation, puis je l'avais trouvé comme particulièrement comme rigoureux puis efficace dans sa job. Donc ça, on ne veut rien enlever, mais c'est ça. C'est que là, bon, c'est malheureux si lui-même il est pris dans des théories du complot qui n'est plus capable de faire vraiment la part des choses. Ce qui joue contre lui, ben, c'est que justement, je pense que le fait qu'il ait porté son chandail de NXT pour cet appel-là, dont les vidéos circulent, ça fait quand même mal paraître la compagnie. Puis ça, c'est quelque chose qui risque de lui nuire. Je ne sais pas dans quelle mesure. Ça qui est le problème avec, bon, quand on tombe dans les théories du complot comme ça, c'est que c'est bien facile de dire ces gens-là ont peut-être besoin d'aide un petit peu, mais on dirait que je vois mal pour l'instant c'est quoi qui peut être offert. T'sais.
C'est pas simple comme ça, parce que justement, qu'est-ce que tu peux faire quand des gens ont un niveau d'investissement émotionnel aussi intense? C'est ça qui est tough, c'est que tu vois. C'est difficile de raisonner aussi avec ces gens-là, parce que tu vas juste te faire répondre « Ah, ben, t'es de leur bord, puis toi, t'es manipulé par les médias de gauche, puis par le gouvernement. » C'est difficile parce qu'il n'y a rien à faire. C'est tough de ramener ces gens-là.
C'est un problème qui dépasse la lutte. Quand même.
Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais
un climat particulier, mettons, que les ingrédients sont là pour que ça saute un jour. C'est un peu inquiétant.
Je pense qu'on a besoin d'être tous un peu moins devant nos ordinateurs là, sur les forums, puis à être en contact avec des idées louches qui, des fois, peuvent faire leur bout de chemin, puis c'est ça.
Hey, moi, je peux aussi vous dire que, contrairement à Triple H, moi, j'ai pas 2 millions de stock que je peux vendre de même du jour au lendemain juste pour un peu de cash flow.
Non plus.
Non, t'as pas ça, toi?
Non. J'ai pas ça, moi. Surtout qu'il reste encore 50 000 shares.
Ça va bien. Puis, tu sais, aussi, il est quand même. Il est quand même dans une famille qui... Il n'y a pas juste son compte de banque à lui, mais je pense que le compte de banque familial, en général, devrait lui permettre d'avoir une belle retraite.
Ils ne doivent pas être trop pauvres. Stéphane, en finissant, tu m'as mentionné tantôt que... Tantôt, avant l'émission.
un autre tantôt.
Si le monde le savait, là, un autre tantôt, là, que ce que tu avais le plus écouté en termes de lutte cette semaine, c'est les documentaires, parce qu'il y en a plusieurs très bons qui ont apparu là, cette semaine, dont entre autres celui sur Stone Cold.
Oui, ben c'est ça. Là, si vous ne le saviez pas, A&E, c'est une chaîne américaine, puis un partenariat avec la WWE depuis le deal avec Peacock. WWE leur donne des accès, puis ils font de la programmation spéciale, mais A&E, c'est disponible au Canada. Là. Moi, j'ai juste changé mon forfait, puis j'ai inclus ça à ma liste de chaînes. Donc, on a toute la production WWE de A&E. Incluant.
Puis, sont-ils disponibles en demande quand tu t'abonnes?
Absolument. Au moi, dès le lendemain, là, Roddy Piper était diffusé dimanche. Je l'ai écouté lundi en demande sur mon récepteur. Et Stone Cold, la même chose. Et il y a aussi la série WWE's Most Wanted qui, je pensais que ça allait être juste un peu n'importe quoi. Finalement, c'est vraiment le fun. Ils partent à la recherche d'objets perdus par des lutteurs. Le premier épisode, c'était genre avec Mick Foley, puis il allait à la recherche de des Mr. Socko originaux chez des collectionneurs, puis son vieux masque, puis sa chemise qu'il portait dans tel combat. Puis là, il se promène sur la route, puis il y a des images archives, puis des anecdotes. Mais les documentaires de A&E, c'est des vraies productions indépendantes. Là, Stone Cold, c'était une bonne heure et demie. Piper, peut-être 1h20. Et c'est la meilleure lutte que j'ai écoutée cette semaine, parce que oui... Ben, si vous connaissez l'histoire de Stone Cold, vous n'allez pas apprendre grand-chose, évidemment. Mais il y a quand même le volet familial de Stone Cold qu'on ne connaît pas beaucoup. Ses relations avec ses enfants et son ex-femme qui sont plus rocailleuses. C'est pas quelque chose qu'il mettait à l'avant-plan parce que le pic de Stone Cold, c'est un peu venu au détriment de sa famille parce qu'il travaillait tout le temps. Donc, sa famille a déménagé en Angleterre et c'est un sujet un peu sûr encore aujourd'hui. Son alcoolisme après sa dépression, il en parle dans le documentaire. Fait que, tu sais, oui, en 1h30, ils vont couper des coins ronds, il y a des affaires qu'ils ne diront pas. Il y a des gros sauts dans le temps pour raconter l'histoire un peu plus rapidement. Mais celui sur Stone Cold est vraiment, vraiment intéressant. Celui sur Piper, ça dépend de votre niveau de connaissance de Roddy Piper, parce qu'il va avoir il y a beaucoup de bullshit dedans.
T'as besoin d'être au courant pour filtrer un peu la bullshit au travers.
En fait, si t'es pas du tout au courant, tu vas trouver l'histoire vraiment nice, parce qu'elle est bien racontée. Sa famille est là avec tous ses... Je pense qu'il y a 4 enfants, Piper, avec son ex-femme. Donc, cet aspect-là est super intéressant. Par contre, le problème, c'est que sa famille sont des narrateurs absents parce que Piper a toujours tenu sa famille à l'écart du monde de la lutte. Il ne voulait pas qu'il soit influencé par ça. Il ne voulait pas que sa vie familiale soit, perverti par le monde de la lutte. Fait qu'eux, ils racontent d'un point de vue extérieur, quasiment comme des spectateurs de la vie de Piper. Et comme Piper est décédé, évidemment, il ne peut pas venir raconter son histoire. Donc, on utilise des bouts d'entrevues, d'archives de Piper, dont dans ses dernières avis, peu avant qu'il meure, où il est confus, pas tout là. Puis le problème avec Piper, c'est que lui aussi est un narrateur pas super fiable parce que il a un passé assez trouble, il a été turbulent pas mal, il a joué avec la bouteille, il a joué avec les médicaments. Donc, tu sais, Piper n'est pas un personnage exempt de tort et de boue répréhensible, et on les amène pas vraiment dans le documentaire, mais l'histoire est vraiment le fun. T'sais, si vous ne connaissez pas l'histoire de Piper, allez le regarder. C'est un petit gars de Saskatoon qui était itinérant et qui est devenu main event de WrestleMania. Tu sais, il y a une progression folle. Puis peut-être que vous le saviez même pas, là, que Piper joue de la cornemuse pour vrai. Puis c'est pas juste... Il s'est pas juste fait coller un personnage d'Écossais. Le gars a commencé à lutter, puis ce qui le différenciait des autres lutteurs génériques de Saskatoon, c'est qu'il jouait de la cornemuse. Fait qu'il jouait de la cornemuse, tu sais. Mm-hmm. Tout ça est vrai, tout ça est arrivé. Puis il y a des images d'archives dans le temps qui étaient avec Ric Flair, puis que les deux faisaient des espèces de playboys à go. Tout ça, c'est des affaires qu'on n'a pas vues souvent. C'est super le fun. Puis il y en a d'autres, je ne me souviens pas c'est quoi les autres épisodes, mais il en reste encore 4 ou 6 à 1 par semaine le dimanche. Donc, c'est le temps de faire basculer vos chaînes. Puis, c'est aussi le temps de vous réabonner à Crave parce que Dark Side of the Ring s'en vient la semaine prochaine. Le premier épisode, c'est l'épisode sur Brian Pillman, qui va être un épisode de fou. Puis, c'est Channing Decker, qu'on a vu souvent à Montréal, qui fait la doublure de Brian Pillman.
Ah ouais?
Il a tweeté ça sur son Instagram cette semaine. Il a mis le teaser de Dark Side of the Ring en disant « With yours truly ». Puis si vous avez vu les épisodes de Dark Side, vous savez qu'ils prennent des lutteurs, ils filment de dos pour recréer un peu les scènes. Puis c'est Channing qui fait Brian Pillman jeune. L'histoire de Brian Pillman va recouper celle de Stone Cold, forcément, va recouper celle de Bret Hart. Fait que j'ai bien hâte de voir leur angle, parce que Pillman est mort jeune. Pillman a eu des problèmes de médicaments. Pillman est vraiment l'exemple de lutteur qui a vécu sur le Edge toute sa vie, puis qui s'est probablement pas juste fait des amis dans le monde de la lutte. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça.
Bon, mais je tiens un coup d'œil là-dessus, tout le monde. Mathieu, film plate cette semaine?
Ben oui, en fait, un doublé, hein, parce que la semaine passée,
je fais même plus d'efforts pour essayer de promouvoir. Ah, Mathieu, écoute les grands classiques du cinéma. Non, non. Quel film plate t'as écouté cette semaine?
Ben, on reste du côté de l'Europe. En fait, la semaine passée, c'était M de Fritz Lang. Tu sais, un titre de film qui doit être dur à googler là, quand c'est juste une lettre. Oui. Mais donc, voilà une histoire genre d'un kidnappeur et d'un tueur d'enfants qui met une ville allemande sans dessus-dessous. Puis là, toute la ville finit par le traquer. Puis là, t'as comme les policiers versus le crime organisé qui les deux veulent essayer de pogner le violeur d'enfants. Puis finalement, c'est le crime organisé qui le pogne puis qui lui font un procès. C'était quand même un film qui était... qui témoignait d'une grande maîtrise technique, puis l'histoire était vraiment intéressante et bien construite, alors que cette semaine, c'est du côté de l'Italie, L'Aventura de Antonioni. Antonioni, j'avais écouté Blow Up de lui il y a de cela quelques mois, j'avais bien aimé dans le monde de la photo. Aventura, par exemple, le film a fini, ça durait 2h15, puis je regardais ma blonde, puis c'était comme... C'est quoi ce film-là? Quand le film finit, puis on n'a pas compris exactement c'était quoi le but, qu'est-ce qui se passait. Puis après ça, on lisait, puis là, c'est à Cannes, les cahiers du cinéma, ça disait, ah, le deuxième plus grand film de l'histoire. C'est comme, OK, ben, on l'a pas filé partout. En plus, on était en forme, mais ça, le courant n'a pas passé pour nous avec L'Aventura.
Ouais, c'était un peu long. Si je ne me trompe pas, le M de Fritz Lang, c'est là qu'ils ont introduit l'espèce de récurrence musicale que Tarantino a volé à toutes les sauces après. Le M qui siffle tout le temps, le tueur.
Oui, c'est vrai.
Il y a une ritournelle qui siffle tout le temps. C'est comme ça que tu l'identifies. Le tueur est proche parce que tu entends siffler. Puis ça, Tarantino, il s'en sert dans.
Tarantino n'a jamais rien volé, OK?
Jamais rien.
Son art poétique repose sur le vol, mais en même temps, c'est correct, c'est assumé. Puis, oui. Mais c'est ça, il faut dire aussi que M, c'était dans les premiers films parlants. Donc, c'est bizarre parce que tu as des bouts du film où tu as juste comme zéro son. Mais dans la plupart du film, en fait, t'as des moments où ils essayent d'expérimenter justement qu'est-ce qu'on peut faire avec du son, puis notamment essayer de raconter l'histoire avec le sifflement. Là.
Stéphane, qu'est-ce que tu penses de la vieille review négative de 1941 Citizen Kane qui a été comme dépoussiérée cette semaine et qui a enlevé le 100% fresh à Citizen Kane sur Rotten Tomatoes?
C'est très drôle. Puis le pire, c'est que quand j'ai vu ça passer, je me souvenais d'un livre que j'avais lu au cégep. J'avais acheté un vieux livre de critiques. Puis les critiques de Citizen Kane étaient... Bof, là, c'était pas...
À l'époque, ouais, c'est ça.
Ça a pas été l'espèce de recul, là, c'est du génie, parce que, première fois que tu vois ça, OK, c'est tel que tel, tu sais, c'était pas si révolutionnaire que ça, c'est avec le temps que tu t'es rendu compte des ficelles, mais le fait que tu le remettes sur Rotten Tomatoes, on va se mettre à faire ça avec tout, parce qu'il y en a plein des films qui passent dans le broyeur des vieilles critiques, et l'inverse, t'en as qui ont eu des super de bonnes critiques au début, puis là, tu y retournes, je suis comme, ouais, c'était un peu... C'était un peu bizarre.
Pour aller déterrer ma critique de Starship Troopers sur Pfaff, là, ça ferait monter leur code.
Il y a bien des bonnes critiques de cette époque-là que j'aimerais ça aller déterrer, mon Mathieu.
Hey, ça, c'était le fun avec les cuts. Là. C'était quoi déjà? C'était fast-forward, play, puis tout ça, là, les critiques instantanées?
Ouais, sur le webzine.
Les critiques instantanées, ouais. Les poids rectales, on s'en a des bons souvenirs. Stéphane, c'est le draft à soir, NFL. Qu'est-ce que ça?
Trevor Lawrence. Trevor Lawrence 1, Festival des corps arrière. Il y a eu des gros trades. Je pense que San Francisco veut aller chercher un corps, ça va rester Garoppolo. Puis là, c'est jour 1. Là, demain, SmackDown est contre la draft. Fait que ça va peut-être faire mal au chiffre de SmackDown. C'est ronde 2, 3, 4, là, je pense, dans mes
autres. De ces 4-5 QB-là là, qu'on entend parler, qui, selon toi, a vraiment un futur dans la NFL? Parce que tu sais, il y a toujours des hit and miss là-dedans. Là.
Ah, il y a toujours des hit and miss, mais j'ai de la misère à voir un monde où Trevor Lawrence n'est pas le prochain Peyton Manning.
Ouais, à ce point-là.
Il est tellement bon, puis on le sait depuis tellement longtemps, c'est qu'on a comme oublié qu'il est tellement bon, mais ça fait 3 ans qu'on le sait qu'il est le first pick de son draft. C'est juste parce qu'il fallait attendre qu'il soit éligible. Il a gagné le championnat national comme freshman, puis il a comme pris ça relax un peu après, mais le gars a tout. Fait qu'à moins qu'il se blesse, puis à moins que les Jaguars le scrap, parce que ça, c'est possible. Il arrive dans une organisation de tout croche, puis que ça marche pas. Mais Trevor Lawrence a vraiment toute la belle liste que tu veux d'un corps arrière. Fait que si vous êtes dans la frénésie des cartes de sport, là, Trevor Lawrence va être le gros nom aussi qui va sortir de ce draft-là.
Ça paraît-tu, vous êtes mes seuls amis, puis je veux pas vous laisser partir. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de la situation de Joe Drouin avec le Canadien?
Il y en a à dire, je lui souhaite d'aller mieux.
Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là à un autre épisode du Petit Paquet cette semaine. C'est toujours agréable d'être là et de vous jaser, continuer d'interagir avec nous autres sur la page Facebook. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao tout le monde.
Okay, ciao.